Radio Ndekeluga, le magazine parlementaire.
Bonjour et bienvenue à tous dans ce 12e numéro du magazine parlementaire de ce samedi. On s'intéresse aujourd'hui au rôle et aux attributions des 4 vice-présidents membres du bureau de l'Assemblée nationale. Car selon le règlement intérieur de la dite institution, les vice-présidents assistent le président de l'Assemblée dans la prise de décision engageant ainsi la vie du Parlement. En région, nous allons nous rendre dans les circonscriptions électorales de Moba et Trois dans la Basse-Côte avec le député Henri Milavigné et à Nangabougila dans l'Ouham avec le parlementaire Franck Saragua qui vont nous parler de leur zone électorale. L'adoption du projet de loi sur la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales est le texte du jour et la plénière à l'Assemblée nationale est le lexique. Au micro, nous sommes toujours deux.
Joël Bagalé
et Igor Jeskin. C'est la paille à la cabine technique. Nous avons Diane Bokoura. Une courte pause et c'est parti pour le magazine parlementaire de Radio Ndekeluga.
Radio Ndekeluga, le mag parlementaire.
Une fois de plus, bonjour à tous. Le bureau de l'Assemblée nationale comprend 15 députés élus par leur pair au scrutin secret. En dehors du président qui est élu pour la durée de la législature, le mandat des autres membres du bureau est renouvelé chaque année au cours de 8 premiers jours qui suivent l'ouverture de la première session ordinaire ou de la rencontre des députés à l'Assemblée nationale.
Oui, Igor, effectivement, le président de l'Assemblée nationale, selon l'article 15 du règlement intérieur, dirige l'institution et la représente dans la vie nationale et internationale. Il est assisté et supplié à cet effet par 4 vice-présidents.
Quelles sont alors les attributions spécifiques de chaque vice-président? Jean Saint-Fourien, Mapinzi, premier vice-président, répond.
Selon le règlement intérieur de l'Assemblée, il y a 4 vice-présidents qui travaillent tous sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale, à qui ils rendent compte de leur mission. Et moi, premier vice-président, je suis chargé de suivre les questions législatives, assurer la bonne gestion administrative des députés, veiller au bon fonctionnement des services administratifs et du personnel de l'Assemblée nationale, coordonner les activités des groupes d'amitié et des associations parlementaires.
La gestion administrative, ça veut dire quoi au juste? Par exemple, les nominations ou les propositions de nomination des personnels relèvent de votre compétence?
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je suis en quelque sorte le chef de l'administration, mais je travaille sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale à qui je rends compte et qui, bien entendu, c'est à lui de prendre les dernières décisions.
Et la question finance, c'est vous qui vous en chargez?
Non, les questions finances, c'est pas moi, c'est le quatrième vice-président qui s'occupe des finances. Le deuxième, lui, enfin, si vous voulez, par ordre protocolaire, le deuxième vice-président s'occupe des affaires sociales, culturelles et des nouvelles technologies. Lui, il a en charge de l'organisation de l'hospitalisation, de l'évacuation sanitaire, des prises en charge des funérailles des députés et des personnes de l'Assemblée nationale. Ensuite, le troisième vice-président, c'est lui qui est en charge de la gestion des biens meubles et immeubles de l'Assemblée nationale, qui s'occupe de l'inventaire des biens mensuellement ou trimestriellement, qui émet un avis avant l'affectation ou l'utilisation du bien meubles ou immeubles, les véhicules et autres de l'Assemblée nationale et de l'entretien de l'Assemblée nationale, le jardin, le parc automobile, les bâtiments, les bureaux, tout ce qui est matériel. Tout ce qui est entretien, c'est lui qui s'occupe de ça. Le quatrième vice-président, c'est lui qui s'occupe des finances de l'Assemblée, l'élaboration du budget de l'Assemblée nationale, son exécution. Il veille au bon fonctionnement des services financiers et il coordonne aussi la passation des marchés de l'Assemblée nationale. Et nous, les vice-présidents, comme le dit l'article 15 du règlement intérieur, on supplée le président en cas d'absence, d'empêchement d'absence par l'ordre protocolaire. Ça veut dire que si le président de l'Assemblée n'est pas là, c'est moi qui assure l'intérim, je le supplée. Et si à la fois le président et moi-même, premier vice-président, sommes absents, c'est le deuxième vice-président qui assure et ainsi de suite.
En voyant les tâches, au niveau de la quatrième vice-présidence, on voit que la tâche est un peu lourde comparativement à celui du second. Pourquoi cette différence?
Non, mais vous savez, c'est des attributions, il faut bien séparer les attributions, qu'il n'y ait pas chevauchement dans les domaines de compétences ou des attributions, si vous voulez. Mais c'est une équipe. On travaille ensemble. Il y a les réunions de bureau qui sont instituées tous les mardis quand nous sommes en session ou chaque fois que besoin se fait sentir, on se réunit d'urgence pour débattre d'un sujet préoccupant. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est juste pour que les tâches, la répartition des tâches, mais en fait, c'est une équipe qui fonctionne.
Pourquoi sur les 4 postes de vice-présidence, une place seulement est réservée à l'opposition démocratique, notamment la 3e vice-présidence chargée de l'élaboration du budget de l'Assemblée nationale, Jean Saint-Ferrier Mapinzi?
Notre règlement intérieur, qui est une loi, dit que l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée, doit refléter, doit être en adéquation avec la composition de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que tous les groupes parlementaires doivent être représentés au bureau. Et nous avons fait cet effort. Et comme nous avons l'opposition aujourd'hui qui s'est déclarée opposition, c'est l'URCA. Et donc nous avons dit, pour une bonne représentation, il fallait lui céder à l'URCA un poste de vice-président. Voilà. Et il faut savoir que sur 140 députés, l'URCA a 13 députés. Il y a aussi un rapport à faire, donc on leur a donné une place sur 15, c'est suffisant. Mais comme les répartitions de postes varient d'une année à l'autre, peut-être qu'on va leur accorder deux places, mais c'est encore là, c'est une décision à prendre en intergroupe. Les groupes parlementaires se réunissent et décident de ces affectations-là.
Mais souvent, est-ce qu'il y a eu des contradictions au niveau de bureau si, du moment où il y a l'opposition et le pouvoir en place, est-ce que souvent il y a contradictions? Ou comment vous gérez ces contradictions?
Mais on les gère en interne, c'est une famille, les problèmes ne manquent pas, les mésententes ne manquent pas, les contradictions ne manquent pas. Et en plus, entre parlementaires, nous sommes là pour débattre et souvent les positions ne sont pas faciles, mais on arrive toujours au point d'entente. Et si, en cas de mésentente, nous avons un seul moyen de départager, c'est le vote, que ce soit en réunion de bureau ou en conférence de président. Et donc, si on n'arrive pas à s'entendre, si sur un sujet le consensus n'est pas dégagé, on passe au vote. Et en ce moment-là, la majorité gagne et c'est tout. Voilà.
Vous êtes aussi assisté des premiers quatre membres, que font-ils concrètement auprès de vous?
Bon, le premier membre est l'assistant du premier vice-président. Donc, il y a certaines tâches que je délègue. Par exemple, le contrôle du personnel de présence. À certaines réunions qui relèvent de mes attributions, je désigne le premier membre d'y aller, le deuxième vice-président à son assistant, qui est le deuxième membre. Le troisième membre, vice-président a aussi le troisième membre et le quatrième également. Donc il y a certaines tâches qu'on donne, mais en fait c'est une équipe, nous travaillons ensemble, mais chacun ayant un assistant dans un domaine précis.
Jean-Eudes, faisons maintenant un tour dans les zones électorales. Cette semaine, nous sommes dans la circonscription de Mobaye 3 dans la Basse-Côte et Nangabougila dans l'Ouham.
Igor, d'abord le député de Mobaye 3 dans la Basse-Côte déplore la situation humanitaire dans sa zone électorale. Selon Henri Milavigné, plus de 6000 personnes n'ont pas d'abri et vivent dans la précarité totale.
Il demande au gouvernement de redéployer les FACA et apporter aussi l'aide à ces personnes en détresse.
La situation de circonscription de Mobaye 3 est très critique en ce jour du fait que il y a eu un affrontement entre les éléments de l'UPC et les autodéfenses du village Boulangba et il y a eu 138 maisons incendiées et les greniers incendiés, les récoltes de 2 ans de café invendues incendiées et là aujourd'hui j'ai presque 6000 habitants dehors sous les manguiers dans la nature en débandade et les enfants à presque 2000 et quelques enfants sans habits, sans abri et la situation est vraiment très critique.
Ces maisons sont incendiées par qui?
Par les Belgiens, parce qu'il y a eu une histoire de saisie d'armes qui était faite par les autodéfenses de Boulangba. Et vous connaissez la réaction des Séléka. Ils sont venus pour faire les représailles et il y a eu ces centaines de maisons incendiées en représailles de cet acte posé par ces soi-disant autodéfenses.
Est-ce qu'il y a les forces de sécurité présentes dans la ville, soit la MINUSCA ou nos forces de défense?
Aucune force de défense nationale dans la ville. Mobaye, qui est une ville frontalière avec beaucoup de risques, aucune force, ni FACA, ni gendarme, ni la police. Là, il y a les contingents mauritaniens qui se trouvent à Mobaye. On se demande que fait ce contingent-là à Mobaye. Est-ce qu'ils sont venus pour protéger la population? Ils sont venus pour faire le tourisme? On ne sait pas. Ils sont là à Mobaye. Même quand ça tire à 100 mètres de leur base, ils ne réagissent pas, ils sont là. On a bien dit, crié, décrié le comportement de ces contingents de mauritaniens. Mais la MINUSCA jusqu'à aujourd'hui n'a pas réagi. La MINUSCA n'ose même pas remplacer ce contingent qui n'assiste pas la population.
Qu'est-ce que vous avez comme message aujourd'hui à lancer à l'endroit du gouvernement et la MINUSCA?
À l'endroit du gouvernement, je demande au gouvernement de prendre sa responsabilité, de nous envoyer le plus rapidement possible à Mobaye un contingent de FACA pour aller patrouiller et ramener la paix, la quiétude parmi cette population qui a tant souffert. Du même côté du gouvernement, je viens vers Madame le ministre de l'Action humanitaire de tout faire pour aller assister ces 6000 personnes qui sont dans la nature aujourd'hui, avec les enfants, 1500 à 2000 enfants qui sont dans la nature, abandonnés à eux-mêmes aujourd'hui à cause de ces événements. Donc je prie à ce que le gouvernement puisse vraiment prendre sa responsabilité, envoyer les FACA du côté de l'action humanitaire, faire quelque chose pour secourir cette population qui est aujourd'hui abandonnée à elle-même. Et du côté de la MINUSCA, que la MINUSCA puisse prendre sa responsabilité avec ses contingents mauritaniens.
Et puis Igor, le député de Nangabougila, Franck Saragba, qui revient d'une mission de restitution dans la localité, nous présente ici les principales difficultés que rencontrent ses électeurs. Nous l'écoutons.
Effectivement, j'ai été dans ma circonscription du 22 au 25 afin de faire une restitution des travaux parlementaires. Donc, la situation présentement relativement est calme. Est calme parce que j'ai pu sillonner et la ville principale et la périphérie sans avoir quoi que ce soit comme en matière d'insécurité.
En dehors de ça, est-ce que vos électeurs ou la population n'a pas d'autres problèmes, par exemple de l'école, de centre de santé, est-ce qu'il y en a?
Oh, vous savez, c'est inévitable, les problèmes ça ne manque pas. D'ailleurs, à mon petit niveau de député, j'ai essayé, mis à part la restitution, d'apporter quelques solutions. Quelques solutions, notamment dans la ville de Boria, qui est à 10 km de Bouguila, en offrant une presse à briques, et puis ensuite, en suivant, le but, c'est de construire un bâtiment pour une école là-bas. Et lorsque nous sommes arrivés à Bouguila même, nous avons offert des ballons, et puis une enveloppe au maître parent, avec deux cartons de craie. Tout ça, c'est pour donner un coup de main, mais les problèmes sont indéfinis.
En ce qui concerne les lois que vous avez fait la restitution avec vos électeurs, quelles sont les lois qui les ont vraiment préoccupés quand vous faisiez la restitution?
Là, notamment, évidemment, ils sont en train de beaucoup attendre du code électoral que nous sommes en train de mettre en place et ont donné des conseils ici et là, leur manière de voir les choses que j'ai intégrées dans ma réflexion pour soumettre à la commission.
Sur cette loi, qu'est-ce qu'ils veulent concrètement?
Oui, entre autres, la somme qui a été demandée et puis en même temps, les conditions d'éligibilité, ils se font beaucoup, ils se posent des questions. Donc tout ça, je porterai ça à la commission élargie. C'est une question, ce n'est pas un travail personnel. On est à la recherche d'un consensus. Et après, on verra bien.
On revient sur les difficultés. Aujourd'hui, est-ce que les écoles, par exemple, dans votre localité, dans votre circonscription électorale, est-ce qu'il y a des enseignants qualifiés sont là? Est-ce que le personnel soignant qualifié est là ou c'est comment?
On déplore toujours, mais ça c'est à l'image de tout le pays. Mais ma circonscription ne joue pas beaucoup d'enseignants titulaires en tant que tels. Souvent ce sont des maîtres parents qui essaient de remédier à ça, mais on a un grand besoin d'enseignants dans mon secteur. De la logistique aussi, c'est-à-dire des bâtiments et des instituteurs ou des professeurs bien formés.
Si aujourd'hui vous avez un appel, vous allez lancer à qui? Et pour faire quoi?
Mais évidemment, je lancerai l'appel à tous ceux qui peuvent compter et qui peuvent apporter de l'aide, non seulement dans ma circonscription, mais à notre pays, surtout pour la sécurité, la stabilité, le retour de l'autorité de l'État. Et ce n'est qu'à partir de là, de ça, qu'on peut faire autre chose.
Nous avons donné l'opportunité à la population de donner son avis sur la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Jean-Eudes.
Nous l'écoutons.
Moi, à mon avis, en tout cas, j'apprécie à sa juste valeur. Ce que je souhaite, c'est que cette commission travaille beaucoup pour que vraiment le respect du citoyen soit vraiment mis en exergue, quoi. C'est ce que j'attends beaucoup de cette commission.
Ceci est une bonne nouvelle, puisque depuis des années de cela, la RCA traverse des crises et apparemment comme si le droit de l'homme n'est pas respecté.
Ça, c'est une bonne idée parce que dans la République centrafricaine, les gens ne se respectent pas même les droits des humains. Et par rapport à cette commission, ça va permettre à tous les centrafricains de savoir ce qui se passe dans le pays et que la commission prenne aussi leurs responsabilités pour éviter aussi les cas de violation.
À mon avis, c'est une très bonne chose. Quand vous voyez très bien en RCA, tu vois, la liberté d'expression est bafouée. De telle sorte que, c'est-à-dire les centrafricains même en question, n'ont pas vraiment, c'est-à-dire cette attitude de dire ce qu'ils ont comme difficulté. Donc ils sont ôtés de leur liberté, quoi. Et voilà, à mon avis, c'est vraiment une très bonne initiative adoptée par l'Assemblée nationale. Mais moi, j'insiste beaucoup sur la praticabilité de cette initiative. Donc je veux à ce que la commission soit autonome pour l'exécution de son travail et pour contribuer aussi à la liberté de la population centrafricaine.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
Nous allons revenir une fois de plus vers Bernard Dila, premier secrétaire parlementaire qui nous commente la loi sur la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La Commission nationale des droits de l'homme, comme son nom l'indique, c'est une commission qui doit veiller au respect du droit, des droits de l'homme. Voilà, donc c'est ça, des droits de l'homme et de la liberté fondamentale. La liberté fondamentale que chacun de nous doit jurer de cette liberté-là. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'entraves dans la liberté fondamentale. Par exemple, quand tu vas en tribunal. Tu vas en tribunal, les gens t'enferment sans pour autant que tu sois encore jugé. Alors qu'il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence et tout ça. Voilà. Donc, il y a tous ces paramètres-là. Les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Cette commission doit veiller à ce que ces droits de l'homme et ces libertés fondamentales soient préservés. C'est ça le travail fondamental de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Ndekiluka, émettant sur les 100.9 FM à Berberati dans la Mambéré KDI. Nous allons terminer cette émission avec le terme plénière à la représentation nationale. La réponse avec Moussa Laurent Gondbaba, président de l'Assemblée nationale.
Voyez-vous, à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale ou le bureau de l'Assemblée nationale ne peut pas prendre des décisions. À l'Assemblée nationale, une décision est prise selon une forme. Alors, la forme de la prise de décision à l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est qu'il faut ouvrir un débat, alors qui engage l'ensemble des députés. Et donc, tous les députés prennent part à ce débat et à la fin, soit par un vote, et donc c'est ce vote qui va sanctionner le débat. Et c'est ce vote-là qui va constituer le résultat, ce vote qui va constituer la décision de l'Assemblée nationale. Et donc, ce vote se fait au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale. La plénière, c'est la séance qui regroupe l'ensemble des députés au cours de laquelle ils mènent des débats pour adopter une décision.
J'ai eu de cette rubrique met fin au magazine parlementaire de ce samedi. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. C'était une présentation de Igor Jeske Senapay et
Joïd Bagali.
La gestion numérique est assurée par Diane Bokula. Portez-vous bien. Nous disons aussi merci au service de la communication de l'Assemblée nationale. À la semaine prochaine et la version en sango, c'est tout de suite.